Depuis quelques dimanches, ce sont des paroles de Paul qui sont lues et poursuivies. Et pour faire suite à cette première partie de Léa qui est centrée sur la vie de l'apôtre Paul, je vous propose cette autre parole de Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce plaidoyer pour, en défense de son ministère d'apôtre, devant l'église de Corinthe, ben, il s'explique par le fait que dans cette communauté, il s'est mis en place une espèce de concurrence entre apôtres, que Paul appelle ici d'ailleurs les super apôtres. Ces nouveaux prophètes prêchent, alors je crois que c'est juste un peu après, je ne sais pas si on l'a lu, cette question des super apôtres, c'est dans les versets qui suivent. Ces nouveaux prophètes, ces enseignants, prêchent une doctrine douteuse, un contre-évangile. Ces super apôtres ont subjugué l'assemblée par leur brio, par le lustre de leur enseignement. Et Paul, ici, va contre-attaquer en guise de toute justification de son ministère. Il va plaider une défense étonnante, celle de la faiblesse, de sa faiblesse. Parole étonnante qui est assez éloignée de l'image que nous avons de l'apôtre Paul, infatigable voyageur, missionnaire, aux quatre coins du bassin méditerranéen, homme à la pensée puissante et aux exhortations vigoureuses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Eh bien, je crois discerner dans cette petite phrase l'essentiel de la théologie de l'apôtre Paul, disons de son message. Face à un évangile de la gloire, ou on dit aujourd'hui un évangile de la prospérité, qui est prêché aux Corinthiens par de super apôtres, Paul contre-attaque avec le message de la faiblesse. Aujourd'hui, sur le web, on vous prêche toutes sortes de choses, mais en grande majorité, on vous prêchera la bénédiction, la réussite. On vous dit que si vous êtes vraiment croyant, vous allez passer d'exploit spirituel en exploit spirituel, vous allez vaincre la maladie, le chômage, la pauvreté, et vous allez passer de gloire en gloire. Et je crois que cette parole interpelle vigoureusement la foi de l'Église du XXIe siècle. Pas seulement l'Église d'Afrique ou l'Église d'Amérique du Sud. Le message de la croix est bien au cœur de la pensée de Paul. On le trouve tout au long de son enseignement. Je songe au début de son hymne à Christ. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, il dit « Jésus, qui était divin, ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave. » En devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et encore, aux Corinthiens, il dira « Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il est important, très important, de comprendre que pour Paul, la croix, ce n'est pas un objet de supplice. Pour ceux qui ont vu à l'époque le film de Mel Gibson, La Passion, selon La Passion du, comment
du Christ.
La Passion du Christ, voilà. Que cette représentation qu'il a est sanguinolente. C'est la souffrance qui est mise à l'écran. Pour Paul, ce n'est pas cela qui est au cœur de son message. La croix, pour Paul, c'est le cœur de l'évangile, du salut. C'est donc la croix comme bonne nouvelle. C'est un message déroutant. Parce que la croix, c'est un lieu de mort, effectivement, mais bien non. Et il nous faut revisiter régulièrement cette réalité. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Écrit Paul aux Corinthiens, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ça veut bien dire que personne ne comprend ça. Paul prêche à tous un Dieu qui se défait des attributs de la gloire pour se manifester à l'humanité dans le dépouillement. C'est le Dieu aux mains vides qui se révèle dans la faiblesse. Si vous lisez l'Évangile, et vous lisez, bien sûr, vous verrez ce Jésus qui vient à la rencontre des gens de cette manière. Un jour, il guérit deux aveugles. Et au lieu de les envoyer claironner sur tous les toits qu'il est un guérisseur puissant, il leur demande, avec sévérité, précise Matthieu, de garder ce miracle pour eux. Vous voyez que Jésus, et on pourrait citer d'autres exemples, n'est jamais dans les brouffes. Il s'identifie au serviteur d'Ésaïe 53, celui qui n'a ni éclat, ni beauté, rien pour attirer le regard. On serait passé à côté de lui sans le voir, c'est ça que ça veut dire. Et si on remonte le cours des Écritures bibliques, on trouvera d'autres histoires d'hommes et de femmes fragiles, sans prestige, sans morale quelquefois, mais que Dieu appelle et envoie pour accomplir des choses uniques au service de son plan. Je pense à des figures comme Joseph, Rahab, David. David, c'est pas seulement le grand roi glorieux qui construit des maisons, qui veut construire des maisons à l'Éternel. David est un freluquet qui garde les moutons, quelqu'un que personne ne voit. Il n'est pas un super-héros de Dieu. Rahab, c'est une prostituée. Ça fait quand même tâche sur une généalogie. Le message biblique est clair. À Dieu seul la gloire, pas à ses lieutenants. À Dieu seul. Et Paul ici, dans la ligne de son Seigneur Jésus et du message biblique, récuse le spectaculaire, l'ostensible, l'évident, comme preuve de l'existence de Dieu. Au long de ma vie chrétienne, qui commence à compter quelques années, je me rends compte maintenant, il m'est arrivé de rencontrer de ces chrétiens que je considérais comme très spirituels, comme très avancés dans la foi. Leur témoignage m'impressionnait beaucoup, parce que Dieu leur parlait tout le temps. Il leur suffisait de prier pour obtenir une réponse. Leur vie semblait marquée par l'intervention permanente divine, songe, exaucement, révélation. Et je dois confesser que, contrairement à ces super chrétiens, je n'ai jamais reçu de vision, de réponse évidente à mes prières. Je me suis souvent senti perdu, démuni, même devant des grands choix à faire. Force est de constater que ma vie chrétienne n'a pas collectionné les exploits. Et que les petites victoires, quelques-unes quand même, dont je pourrais me féliciter, elles ont été obtenues par Dieu seul, au forceps, et au bout de longues années d'épuisants combats, me laissant toujours dans un équilibre précaire. Alors quand j'entends Paul, le grand Paul, qui pourrait se vanter de choses stupéfiantes, témoigner de visions supranaturelles, ineffables, quand j'entends Paul me dire « faut-il faire le fier ?», c'est bien inutile. C'est quand je suis faible que je suis fort. Eh bien, quand j'entends ça, je me sens libéré d'un grand poids. La révélation biblique ne semble pas créditer cette théologie de la gloire, de la prospérité, de la victoire qui a si bonne cote aujourd'hui. Mieux que cela, Dieu a un parti pris pour les faibles. Le mot faiblesse, d'ailleurs, revient 4 fois dans le texte que nous avons lu. C'est le mot asthénia, asthénia. Ça a donné des mots en français, hein, la neurasthénie. Eh bien, il y a aussi les asthéniques de la foi, et Dieu les aime. Pour Paul, la faiblesse, l'asthénie, c'est le lieu par excellence où Dieu choisit de se révéler. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce donc étonnant que Dieu choisisse Abel? Vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire la buée. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile que la buée? Est-ce anormal qu'il choisisse Moïse le bègue, celui qui ne peut pas s'exprimer en public, pour délivrer son peuple de la servitude? Jacob le fourbe, Jonas le trouillard. Est-ce un hasard que Dieu vienne à nous sous les traits d'un bébé dans une crèche? Est-ce un hasard encore qu'il se mette à prêcher dans le désert, loin du faste religieux du temple de Jérusalem, par la bouche d'un prophète hirsute, maigre, appelant au Jourdain les gens à changer de vie? Je ne crois pas que c'est un hasard. Dieu vient à nous dans la faiblesse par le témoignage des insignifiants, des sans-nom, des marginaux, des moins que rien. Dieu s'émeut de la compassion pour les foules qui n'ont pas de berger, les abandonnés, les sans-voix. Et à chaque fois que l'Église s'éprend de reconnaissance, quand elle se vautre dans la richesse, se grise de pouvoir, s'embourgeoise au point de se croire forte et influente, c'est alors que Dieu la quitte. C'est alors qu'il la juge. C'est alors qu'il envoie des gens baptistes, des Luther King, des mères Teresa, femmes et hommes de foi qui n'ont rien d'autre que la certitude de leur dénuement, qui n'ont pas d'autre légitimité que l'appel qu'ils reçoivent du crucifié. C'est d'ailleurs avec des mots d'une force extraordinaire qu'un John Bost, pasteur des Églises libres, au XIXe siècle, fondera le centre de notre région pour les personnes handicapées à la force. Je le cite. Ce que tout repousse, je les accueillerai au nom de mon maître. Cette option préférentielle de Dieu pour les faibles, ce n'est pas du misérabilisme. Non, c'est seulement de l'amour pour l'homme tel qu'il est en vérité. Parce que derrière l'image de respectabilité, le vernis de la maîtrise, de la réussite sociale ou intellectuelle, derrière cette image de force que nous passons notre vie à construire et à donner de nous-mêmes aux autres, on découvrira vite des montagnes de faiblesse, d'angoisse, de doute. Une montagne d'humanité complètement perdue dans son parcours sur la terre. Et c'est cela que Dieu cherche. C'est cela qu'il veut rencontrer chez nous, sœurs et frères. Va avec la force que tu as, dira l'ange à ce petit Gédéon, celui qui se trouve trop jeune, mal né, sans pouvoir. L'ange de Dieu l'appelle, vous savez comment il l'appelle ? Vaillant guerrier, va avec la force que tu as, car tu n'es pas seul. Et voici comment la faiblesse, dans le regard de Dieu, devient beauté, force de vie, victoire sur les forces de mort. Ce message de la croix, qui est si cher à Paul, n'est autre que le message de la grâce. Tout a été accompli sur la croix, par amour, par le Christ. Il ne reste plus qu'à accueillir, à croire, à vivre de cette gratuité infinie, si merveilleuse. Et quand le naturel revient au galop, nous persuadant à nouveau de la gloire de nous-mêmes, de la grandeur de notre service, de son utilité, de la valeur de notre engagement, soyez certains qu'un ange de Satan nous sera envoyé pour nous rappeler douloureusement qui nous sommes en réalité. Et nous entendrons la voix du Christ nous dire à nouveau « Ma grâce te suffit. Mon ami, tu te trompes de désir. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Dans l'abandon, le renoncement à ces désirs de gloire. Égocentré. Non. La vie en Christ pour Paul et pour nous, ce n'est pas ce zénith spirituel, cette situation, cet acquis, la vie en Christ n'est pas cette foi fantasmée dont nous serions les super acteurs, super héros, super apôtres, super apôtres. La vie en Christ est un combat, sœurs et frères, un rude combat qui commence dans cette prise de conscience douloureuse et salutaire de notre dénuement. Là, face à nous-mêmes, exposés à l'appel du Christ, un miracle peut se produire. Dans la lumière de l'appel du Christ, nous devenons conscients de notre propre vulnérabilité et nous découvrons la grâce. Tout est donné en lui, la vie, le salut, la paix de nos cœurs. Habités de cette grâce qui désormais nous suffit, eh bien nous nous engageons sans crainte dans ce monde pour la justice et pour le droit. Nous nous tenons auprès de ceux que la vie accable. Nous prenons le risque d'annoncer cette folie, la bonne nouvelle d'un Dieu qui meurt sur la croix par amour pour tous les hommes. Nous devenons les frères et les sœurs de tous les hommes, artisans d'une paix plus que durable, une paix éternelle. C'est dans cette faiblesse-là que nous serons forts. C'est par cette faiblesse que Dieu veut transformer notre monde. Amen. Amen.